J'aimerais, pour ceux qui veulent tourner dans le Bible, vous le pouvez. Dans Philippiens, c'est écrit ceci. Philippiens chapitre 3. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. S'il y en a un qui, au moment où il a écrit ces lignes-là, pouvait se glorifier de ce qu'il a fait, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Au moment où il a écrit ça, Paul avait déjà un bon bout de chemin de fait dans son service pour le Seigneur. Il avait déjà implanté des églises, il avait déjà fait des voyages missionnaires. Et l'apôtre Paul n'en était pas au début de son service. L'apôtre Paul aurait pu se glorifier de son passé. En québécois, on dit se péter les bretelles. Parce que j'ai dit ça en France, ils n'ont juste pas compris. Mais il ne l'a pas fait. Il a regardé en avant de lui. Ils se sont demandé quelle langue je parlais tout d'un coup, là. Vous savez, regarder en arrière peut être une bonne chose. L'histoire nous dit, la Bible nous dit que l'Ancien Testament nous a été écrit pour nous servir d'exemple, afin qu'on copie certaines choses puis qu'on n'en copie pas d'autres. Le passé, l'histoire est bonne pour nous enseigner. Mais là où des fois on a un problème, c'est quand on reste accroché au passé. Beaucoup de gens restent accrochés au passé pour différentes raisons. Beaucoup de gens viennent à Christ, ou encore ce qui les empêche de venir à la connaissance de Jésus-Christ, de recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, c'est souvent des blessures du passé. Et les blessures du passé vont être, dans la vie de beaucoup de gens, des boulets extrêmement pesants. Agression, viol, faillite personnelle. Et vous savez, ce genre de choses extrêmement lourdes qu'on traîne dans notre cœur, qui ne sont pas nécessairement écrites sur notre front, mais qui sont gravées dans notre cœur et qui parfois saignent encore. Des blessures émotionnelles, comme des blessures relationnelles, comme d'autres genres de blessures qui font un impact dans notre vie et qui nous empêchent parfois d'avancer. Quand on parle d'apprendre du passé pour mieux avancer, vous savez, pour bien utiliser les leçons du passé, va nous enseigner, mais vivre dans le passé va nous détruire, nous garder déprimés, va nous faire tourner en rond, nous empêcher d'aller de l'avant. Vous savez, ces églises qui parfois regardent à leur gloire en arrière, s'assoient sur leur laurier, ne progressent plus. Parce qu'ils ont cessé de regarder en avant, parce qu'ils regardent parfois en arrière à tout ce qu'ils ont fait de bon, et c'est bien. Mais vous savez, l'apôtre Paul avait fait aussi des tas de bonnes choses, et c'est lui qui dit, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Le passé peut être un tremplin pour aller plus loin, et je dis des fois, le passé peut être un obstacle, un boulet qu'on traîne. J'aimerais juste rapidement avec vous... Trois choses qui vont nous aider à regarder vers l'avant. Trois choses qui vont nous aider à ne pas rester bloqués. La première, c'est vivre la liberté du pardon en Jésus-Christ et décrocher de la culpabilité. On se sent coupable pour toutes sortes de choses. J'ai des tas de choses dans ma tête que je voudrais effacer. J'ai des tas de niaiseries que j'ai faites, que j'ai dites, que je voudrais ne pas avoir faites. J'aimerais réécrire certains chapitres de ma vie. J'aimerais refaire certaines choses. J'aimerais pouvoir dire non quand j'aurais dû dire oui. J'aimerais pouvoir dire oui quand j'aurais dû dire non. J'aimerais changer des choses. Mais il y a des choses que je ne peux pas changer. Il y a des choses que je ne peux pas changer. Il y a des blessures que je traîne qui ont leur lot de cicatrices dans ma vie. Mais vous savez, la grande bénédiction, la connaissance de Jésus-Christ, c'est ceci. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même la lumière, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. J'arrête ici. Ici, dans la vie courante, beaucoup de gens pourraient lire ceci autrement et dire ce verset-là comme ceci. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous fait sentir purifiés de tout péché. Avez-vous déjà dit vous-même, je me sens pas pardonné? Je ne sais pas combien de fois dans ma pratique pastorale, j'ai eu des gens assis devant moi qui me disaient, Gilles, je me sens tellement cheap devant Dieu. je me sens tellement indigne. J'ai de la misère à prier parce que à cause de ce que j'ai fait des promesses à Dieu, j'ai voulu m'engager, puis j'ai déchu de mes promesses, j'ai manqué à ce que je voulais pour Dieu, et j'ai honte. Et des fois, je demande, t'as-tu confessé ton... Oui, j'ai confessé mon péché, mais je me sens pas pardonné. Des fois, je reviens puis je dis, est-ce que le mot « se sentir » est écrit là? Souvent, ce pourquoi beaucoup de chrétiens vont confesser, et peut-être que vous l'avez vécu, confesser à répétition le même péché. À chaque fois qu'ils s'endorment un peu, ils reconfessent les mêmes péchés. Et ils les reconfessent. Parce qu'ils ont l'impression que faut encore demander pardon. Parce qu'ils se sentent pas pardonnés. Parce que bien sûr, ils ont de la misère à se pardonner eux-mêmes. Et le boulet de la culpabilité est lourd à traîner. Comment est-ce qu'on veut venir adorer Dieu quand on se sent pas pardonné? Comment est-ce qu'on veut exercer un ministère quand on se sent pas digne d'exercer ce ministère-là? Pourtant, la Bible dit, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, pas pour nous faire sentir pardonnés, mais pour nous pardonner. C'est un absolu qu'on prend par la foi et non par les émotions. Le pardon de Jésus-Christ est un pardon qu'on reçoit par la foi et non par les émotions. Et c'est toute une différence au monde. Souvent, on voudrait sentir ce pardon-là. Mais c'est pas le sentiment qui fait la différence, c'est la foi qui fait la différence. Et c'est ce qui nous libère de nos chaînes. C'est ce qui nous libère de nos chaînes. Et c'est la beauté du salut en Jésus-Christ. Malgré tout le noir passé que tu peux avoir vécu, malgré toutes les conneries qu'on peut avoir faites, malgré toutes les plaies qu'on peut porter, malgré tout le sang qui peut couler de nos blessures personnelles, lorsque Jésus-Christ vient nous pardonner, il nous lave complètement. Et c'est par la foi qu'on reçoit ça, pas par les émotions, pas par les sentiments. Bien sûr, ça provoque des émotions. Notre frère, tantôt, nous en a parlé. Mais on reçoit le pardon de Dieu comme un cadeau par la foi, et ça vient faire toute une différence. Beaucoup de chrétiens ont de la misère avec la culpabilité. Beaucoup de chrétiens ont de la misère avec le pardon, justement parce qu'ils ont manqué de réaliser que le pardon en Jésus-Christ, la liberté du pardon en Jésus-Christ, ne vient pas par ta condition émotionnelle, elle vient par un acte de foi. Et une fois qu'on a posé cet acte de foi-là, on se sait purifié. Purifié. Hey, imaginez. Purifié. Et c'est ça le salut en Jésus-Christ. De recevoir le pardon de Dieu et d'être purifié de nos péchés. La Bible dit dans le psaume 32, « Je t'ai fait connaître mon péché. J'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » C'est pas écrit « et je me suis senti pardonné ». J'aimerais vous encourager à changer votre manière de penser et de parler en matière de pardon et de confession. Jésus-Christ efface nos péchés. « Qu'est-ce qui tout homme pieux te prie autant convenable? Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. T'es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. » Pourquoi la détresse émotionnelle? Parce que justement, on se laisse entraîner par les émotions, qui sont parfois mauvais messages. Mais la foi nous ramène à la bonne place. Tu m'entoures de champs de délivrance. Et on dit dans le verset 11, « Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » La plus grande bénédiction pour pouvoir regarder en avant et laisser les boulets du passé, c'est de prendre le pardon de Jésus-Christ par la foi, pas par les émotions. Et de vivre après ça, relever la tête comme un individu purifié qui marche pour Jésus-Christ. Le deuxième élément qui va nous empêcher d'avancer et de marcher, c'est les défaites humiliantes du passé qui sont un obstacle à la croissance. Je pense que tous autant qu'on est, on a fait des erreurs. Et on s'est fait critiquer peut-être. Et vous savez, le motto de certaines personnes lorsqu'ils ont vécu quelque chose de difficile, c'est de dire, OK, vous me prendrez pas deux fois, vous me chiolerez pas deux fois. Moi, m'asseoir, là, je vais regarder passer le train. Puis moi, je vais vous chioler. Et souvent, les gens, on entend ça, souvent les gens vont dire, « Ah oh, ben là, non, j'ai été assez blessé, là, je prends du recul et puis je laisse ça de côté. » Et les défaites du passé sont souvent des moments difficiles, quelles que soient les choses qui se sont passées. Un frère, à un moment donné, parlait avec moi qui avait de la misère à être fidèle dans sa lecture. Et j'ai dit, écoute, moi, ce qui m'aide, c'est un plan de lecture personnel. Ça me drive. Je sais où je suis rendu, puis je sais où je m'en vais. Alors, j'ai dit, peut-être que je pourrais te prêter mon plan de lecture personnel. Ah, il dit, Gilles. Il dit, si tu savais combien de plans de lecture j'ai essayé, ça marche pas. Je veux plus en essayer. Je dis, comme ça, tu n'iras plus, là. Ah, non, c'est pas ça que ça veut dire, mais quoi? Souvent, les échecs, ou encore quelqu'un va rentrer dans une église parce qu'il a été blessé avant dans une autre église, on est méfiant. Les échecs du passé sont souvent des difficultés qu'on garde trop longtemps. Mais en matière d'échecs, la Bible est intéressante. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, c'est pas fini. S'il tombe, il n'est pas terrassé parce que l'Éternel lui prend la main. Hey, c'est pas intéressant ça, un Dieu comme ça? Quand on tombe, là, Dieu ne fait pas un X sur nous autres. Si on rate notre coup, si on a fait une erreur, Dieu fait pas, on tombe pas sur la blacklist de Dieu parce qu'on est ses enfants. Et regardez ce qu'il dit, mot très important. L'Éternel affermit, il prend plaisir à sa voix. Il ne prend pas plaisir à nos péchés, mais il prend plaisir à notre croissance. Vous savez, la majeure partie d'entre nous, j'imagine, sont des parents. Vous avez déjà montré à votre enfant à marcher, hein? Et vous savez, quand on prend la main à un enfant pour marcher, bon, il tient la main. Et là, on le lâche un petit peu, voir qu'est-ce qu'il va faire. Il fait quelques pas, boum, il tombe. On le reprend, on le relève, fait quelques pas, boum, il tombe encore. Imaginez qu'après 3-4 chutes, fabulons, imaginez qu'après 3-4 chutes, le petit vous regarde puis il dit, écoute là, ça fait mal, hein? C'est dur sur la colonne. Ce sur quoi je tombe, c'est pas toujours vide. Et tu sais, c'est humiliant. Puis se relever, c'est pas drôle, là, tu sais. Moi, j'en reviens bien de tomber, là. Je reste assis dorénavant. On dirait, ben voyons, pas de même, tu vas apprendre à marcher. Mais pourtant, il y a des chrétiens qui font ça. Là, j'ai assez essayé, j'essaye plus. Et souvent, des chrétiens manquent l'occasion de servir dans des ministères parce qu'ils disent justement, j'essaye plus. Ça me tente plus. Je veux pas me faire critiquer. Je veux pas me faire chialer. Je veux pas être pointé du doigt. Mais on a besoin de servir. L'Éternel, s'il tombe, il n'est pas fini. Et notre Dieu est un Dieu encourageant. Moi, je remercie le Seigneur que j'ai un Dieu encourageant. Plus encourageant que moi, je l'ai été. Parce que j'ai la faveur de Dieu. Vous avez la faveur de Dieu, savez-vous ça? Parce que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes dans les bonnes grâces de Dieu. Donc, si vous tombez, vous n'êtes pas fini. Il va vous aider à vous relever. Dans les psaumes, c'est écrit, « Oh Dieu, relève-nous. » Pourquoi il y a besoin de dire ça? Parce que Dieu nous relève. « Fais briller ta face sur nous et nous serons sauvés, car tu es la gloire de sa puissance. » C'est ta faveur qui relève notre force. Hey, écrivez ça sur dans votre Bible, là, sur votre mur de maison, je ne sais pas. C'est ta faveur qui relève notre force. Vous êtes épuisé matin? Vous êtes déçu de vous-même? Vous avez tombé cette semaine? Ou vous avez tombé depuis un certain temps? Vous avez reculé dans votre vie chrétienne? Sachez une chose. Dieu n'a pas fait une croix sur vous. Vous avez la faveur de Dieu. Et sa faveur va vous donner la force de continuer. Il relève l'indigent. Hey, il parle de moi, là. Il relève l'indigent, il le délivre de la misère. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Hey, c'est un mot qui sent mauvais, ça. Du fumier, il relève l'indigent. Oui, il y en a qui se mettent là-dedans des fois. Dieu dit, même de là, je vais aller te chercher, je vais t'aider, je vais prendre ta main puis je vais te relever. Hey! Moi, je veux d'un père de même. Car cette fois, le juste tombe et il se relève. Pourquoi? Parce que Dieu désire qu'on avance, qu'on regarde en avant, qu'on regarde à lui. Et qu'est-ce qui va faire la différence quand l'enfant tombe? Quand l'enfant tombe et qu'il veut se relever, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à vous, puis il tend la main. Il tend la main. Et là, il y a un papa, il y a une maman qui lui tend la main, puis il se relève. C'est ce qui aide à marcher de l'avant. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Si t'es tombé, mon frère, ma sœur, si t'es déçu de toi, sache une chose. Dieu t'aime, veut que tu te relèves parce que tu as la faveur de Dieu. C'est une belle vérité à se rappeler, ça. Tu as la faveur de Dieu. Troisième chose, que les victoires du passé soient un gage pour les victoires à venir. Je vous raconte quelque chose ici. Lorsque mes garçons, mes enfants étaient au séminaire, pas juste mes garçons, un de mes garçons, j'ai aucune idée si c'est Joël ou Jean-Philippe, là, m'appelle un jour, puis il me dit, « Papa, il y a un missionnaire qui est ici, puis il s'en va à Montréal, il prend l'avion, et il a besoin d'une place pour se coucher à Montréal, il peut-tu aller chez nous? » Ben oui, notre maison est ouverte. Alors, mais je ne sais pas c'est qui ce missionnaire-là. Donc, ma porte, à un moment donné, la porte sonne, plus tard, et puis un couple est à ma porte, lui a 82, elle a 80. Ce sont les missionnaires en question. Ils entrent, on s'assoit à table, et pendant qu'il est à table, je lui demande un peu de me raconter son ministère, son témoignage. Et le monsieur me raconte que pendant toute sa vie, jusqu'à 65 ans, en tout cas, je ne sais pas à quel âge il a commencé, mais je crois qu'il avait été missionnaire comme 35-40 ans en Amérique du Sud. Et là, il avait implanté des églises et il avait servi. À 65 ans, il s'est dit ce que plusieurs disent, pension. Alors, il est retourné chez eux, mais Dieu l'a gratifié d'une bonne santé. Donc, au lieu de se tourner les pouces, il s'est dit, OK, what's next? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, le monsieur, voyant que Dieu lui avait donné une bonne santé, de l'énergie, capable de travailler, il est tourné sur le champ missionnaire et entre 65 ans et 80, il a implanté 3 nouvelles églises. Amen! Mais moi, il m'a dit qu'il y avait 82. Je sais compter. Alors, j'ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez fait entre 80 et 82? Ben, il dit, à 80, je suis retourné chez nous. Puis là, ils disent qu'on est vieux à 80. Certains disent ça. Alors, il dit, moi, j'avais encore de l'énergie. Et finalement, à 80, il a décidé de devenir représentant pour sa mission et de parcourir le Canada, parler aux jeunes et aux églises du besoin missionnaire. Là, je me suis dit, wow! Hey, c'est quelque chose. Lorsque j'ai été sauvé, j'avais 19 ans, dans ma deuxième année de cégep. Et à 20 ans, pendant l'été, c'était jeunesse en mouvement dans le temps. Les jeunes, vous connaissez pas ça, jeunesse en mouvement, c'est l'ancêtre de JBEC. Et alors, j'ai fait un été dans jeunesse en mouvement, et dans jeunesse en mouvement, je suis allé à Asbestos. Et là, à Asbestos, il y avait Mme Gosselin, la mère de Lionel Gosselin. Mme Gosselin. Et vous savez, Mme Gosselin, c'était une évangéliste. Moi, j'étais jeune dans le temps, elle m'apparaissait très âgée. Peut-être qu'elle n'était pas tant que ça. Ma vie, ma perception a changé depuis le temps. Et je trouve que 80, c'est un bel âge. Alors, ma perception des choses a changé. Mais Mme Gosselin était, dans son âge avancé, elle ne pouvait plus marcher autant qu'elle voulait. Mais Mme Gosselin avait prêché l'Évangile à tout le monde qui voulait l'entendre. Et là, Mme Gosselin était handicapée de ses jambes et elle pouvait pas aller autant qu'elle le voulait. Mais vous savez, elle m'a dit, Gilles, et je me rappelle, elle m'a dit ça comme ça en me pointant du doigt, elle m'a dit, Gilles, Dieu m'a enlevé mes jambes, mais il m'a pas enlevé ma langue. Mme Gosselin téléphonait à ses contacts. Elle priait avec les chrétiens de l'Église. Et Mme Gosselin a servi le Seigneur jusqu'à la fin de sa vie. Bill Phillips, pour ceux qui ont connu M. Phillips, 15 jours avant de mourir, il était encore au téléphone en train d'encourager des chrétiens. Il était encore au téléphone en train d'encourager des chrétiens. De l'autre côté, en visitant les églises, il m'a été donné d'être assis un jour à une table. Et là, les gens qui me recevaient me racontaient comment c'était quand ils ont commencé l'église locale où ils sont. Et comment ça se passait. Et ils me disaient, Gilles, on a évangélisé, on a fait du porte-à-porte, madame avait fait l'école du dimanche, monsieur avait fait ça. Et là, amen, hey, vraiment, ils ont été des serviteurs. Et là, je leur ai posé la question, qui tue? J'ai dit, mais là, vous faites quoi? Oh, ben là, on a laissé ça aux plus jeunes. Ah oui? Et là, j'ai pas été assez vif d'esprit pour te demander, t'écris où dans la Bible, ça? Il est où le verset qui dit qu'à un certain moment donné, on peut cesser de servir parce qu'on a fait notre partie, là? C'est les plus jeunes qui prennent la relève, là. C'est où c'est écrit, ça? C'est où c'est écrit dans la parole, la retraite spirituelle? L'apôtre Paul, moi je bénis Dieu pour l'apôtre Paul qui a écrit ceci. L'apôtre Paul était vers la fin de son ministère. Et l'apôtre Paul pouvait dire, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Au moment où il a écrit ça, il était emprisonné. Une sorte de prison. Il n'y avait rien pour arrêter l'apôtre Paul jusqu'à son dernier souffle. Un des éléments qui va nous bloquer dans notre croissance, c'est lorsqu'on trouve qu'on en a assez fait puis qu'on devrait laisser le bâton aux autres. Il y a tellement à faire au Québec. Il y a tellement à faire à Trois-Rivières. Je vous encourage à ne pas contempler la retraite spirituelle jusqu'à temps que vous contempliez la face de Dieu. C'est ce à quoi on est appelé. Dieu a donné des dons. Dieu vous a donné des capacités. C'est pour servir. Les personnes âgées ont des besoins. Bien sûr, Dieu limite certaines personnes par la maladie, mais pas toutes les maladies. Et on se rend compte que même si Dieu nous limite par certaines maladies, il y a d'autres parties de notre corps qui peuvent être encore à son service. J'oublierai jamais Mme Gosselin. Sa langue marchait. Et elle a témoigné. Elle a témoigné, c'est tout ce qu'il lui fallait. C'est tout ce qu'il lui fallait. Un bras pour tenir l'appareil et sa langue pour parler. Est-ce que vous êtes rendu à la place ou vous êtes en chômage spirituel? Ou vous êtes déjà à votre retraite spirituelle? Dieu vous veut en action. Et si vous tombez, vous avez la faveur de Dieu parce qu'il veut vous relever. Et si vous vous sentez coupable, sachez que lorsqu'on a donné notre cœur à Jésus, qu'on se présente devant lui pour lui demander pardon pour nos péchés, il nous pardonne complètement et entièrement. C'est pas merveilleux d'avoir un Dieu qui nous reçoit comme ça? Un Dieu qui nous aime, qui nous pardonne nos péchés quand on se repent. Une fois pour toutes, on n'a pas besoin d'y revenir. Qui nous relève quand on est tombé, qui nous encourage, qui nous fortifie et qui nous donne la grâce et la force d'aller jusqu'à la fin. C'est comme ça que le Québec va avancer, avec des gens remplis dans nos églises qui regardent en avant, qui ne se laissent pas arrêter par aucun boulet et qui regardent à Jésus-Christ toujours en se demandant, demain, qu'est-ce que je peux faire pour Christ? Qu'est-ce que je peux faire pour mon église à Trois-Rivières demain? Qu'est-ce que je peux faire pour mes compagnons là où je travaille? Qu'est-ce que je peux faire pour les gens autour de moi? Qu'est-ce que Dieu m'a donné comme capacité, comme don pour que je le serve au Seigneur? Es-tu au service du Seigneur présentement? Sache que Dieu t'attend et Dieu en réserve pour toi des bénédictions. Dieu en réserve pour toi de grandes bénédictions. Prenons un instant pour se courber dans la prière, s'il vous plaît. Père éternel, j'aimerais te rendre gloire, te glorifier, parce que tu es un Dieu d'amour, de miséricorde et de compassion. Rien de ce que le monde nous offre. Père éternel, je veux te prier ce matin pour l'Église de Trois-Rivières, que non seulement on soit en train de grandir numériquement, mais de grandir aussi en qualité, en service, en mise en œuvre. Père éternel, je te prie pour chacun ici ce matin. Aide-nous à cultiver cette attitude de foi face au pardon, face à la culpabilité. Aide-nous à cultiver, Père éternel, cette attitude de foi face à la grâce que tu vas nous donner pour nous relever et marcher par la foi et te servir jusqu'à temps que que tu viennes nous chercher pour l'éternité. Je te prie, Père éternel, pour quiconque ce matin ne connaît pas encore ce Dieu de grandeur, de miséricorde, de bonté, fais-toi connaître à lui. Je te prie pour quiconque est en pause pour toutes sortes de raisons, certains boulets. Père éternel, rafraîchis son cœur, ranime ses forces pour que ton nom soit glorifié et que ton évangile avance à Trois-Rivières et dans tout le Québec. C'est à travers Jésus-Christ que je te demande ces choses. Amen.